BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Souvent ici, dans les couloirs du Parlement européen, je croise une eurodéputée qui me dit, que ce soit dans le couloir ou dans l'ascenseur, mais enfin, il faut parler des nanotechnologies, c'est super important, c'est peut-être le prochain scandale sanitaire, cette eurodéputée. C'est Michel Rivasi. Bonjour,
bonjour
Michel Rivasi.
Bonjour.
Des Verts, évidemment, Europe Écologie. Vous connaissez, vous êtes biologiste, vous connaissez la question par cœur. On va parler des nanoparticules qui sont invisibles. Les nanoparticules sont 100 à 1000 fois inférieures au diamètre d'un cheveu, mais elles sont partout. Elles renforcent l'efficacité des produits cosmétiques. On les retrouve dans les crèmes solaires, c'est ce qui permet de ne pas avoir de dépôts blancs sur la peau. On les retrouve dans les bonbons, c'est ce qui permet de fixer la couleur. On les retrouve dans le dentifrice qui brosse plus blanc que blanc.
Ah, c'est ça.
On les retrouve dans les pâtisseries. Et les deux chambreurs qui sont très actifs depuis tout à l'heure et qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télévision, et qui vont s'efforcer de faire semblant de s'y connaître à peu près sur la question des nanoparticules durant cette émission, c'est Jean Quatremer, correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles, et Emmanuel Foulon, spin doctor du Parti Socialiste Belge au Parlement Européen. Bonjour messieurs.
Il n'est pas au PTP ?
Non, il n'est pas au PTB, qui, en gros, c'est le Parti communiste belge.
En tout cas, aujourd'hui, surtout docteur, parce qu'on va parler beaucoup santé, finalement.
On va parler beaucoup santé. Voilà, les nanotechnologies, après les OGM, après le TTIP, après le gaz de schiste, le nouvel épouvantail, ce sont les nanotechnologies. Quels risques, quelles avancées médicales possibles aussi, parce qu'il y a des avantages. Quel intérêt pour l'industrie? Se dirige-t-on vers une réglementation européenne? On a plutôt le sentiment que la Commission européenne traîne un petit peu des pieds. Les nanotechnologies, demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Michel Rivasi, pour les uns, les nanotechnologies, c'est des avancées médicales, c'est des crèmes solaires qui protègent mieux des UV, tout en pouvant draguer un petit peu sur la plage sans avoir une couche de blanc. Ce sont des vêtements antibactériens, ce sont des verres à lunettes qui ne se rayent pas. C'est ça, les nanotechnologies. Mais pour vous, c'est quoi avant tout les nanotechnologies ?
Ben, les nanotechnologies, bon, comme vous l'avez dit, c'est des très très fines particules qui ont des propriétés, je dirais, différentes. Par exemple, si on parle du fer ou du titane ou de la silice, quand c'est très petit comme ça, ça peut avoir des conséquences sanitaires, environnementales. Et si vous voulez, moi je suis sur le principe « no data, no market », c'est-à-dire pas de données, pas de marché. Or, tous les industriels, et vous avez vu, il y a des milliers de produits qui contiennent des nanoparticules, se sont engouffrés dans la brèche en disant « voilà de nouvelles propriétés ». Maintenant qu'il n'y ait pas d'études sanitaires environnementales, on profite du laxisme de la Commission, on profite du laxisme des États membres, vous voyez, pour ne pas réglementer ou même informer le consommateur pour pouvoir vendre
en
ça
gros,
sur le marché.
En ce moment, c'est un peu à l'américaine, ici en Europe, c'est-à-dire on y va, l'industrie y va, et si jamais il y a un problème, à ce moment-là, on légiférera.
Exactement. Sauf qu'il y a quand même des législations sur l'information du consommateur qui date de 2011. Vous voyez, par exemple, vous avez parlé des nanoparticules du dioxyde de titane dans les chewing-gums, dans les bonbons, même dans la blanquette de William Sorin. C'est une association, Agir pour l'environnement, qui a fait des études.
Ils seront contents.
Et ben, d'abord, pourquoi on l'en met ? Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'en mettre. Et puis, il y a l'Agence nationale de sécurité alimentaire française, l'ANSES, qui tire la sonnette d'alarme. Je les avais fait venir, moi, ici, au Parlement européen, parce qu'ils disent, mais ces particules ont des conséquences. On sait que ça entraîne des problèmes aux poumons, au niveau des fibroses, au niveau même, ça traverse les barrières, au niveau du cerveau, au niveau du foie.
C'est ça.
C'est bio-accumulable. Et vous voyez que quand on voit cette épidémie de cancer, on se pose des questions. Et là, cette directive 2011 qui doit informer le consommateur, moi j'achète des bonbons pour mes gamins, mais je veux savoir s'il y a des nanoparticules ou pas. Eh bien, c'est pas respecté, il n'y a pas le crochet avec nano.
Emmanuel Foulon, dites-nous quelque chose d'intelligent sur les nanoparticules.
Déjà la pression, mais en fait je pense que Mme Rivasi, elle est beaucoup trop gentille. Ah. J'ai beau être un aérophile convaincu, je pense que la Commission européenne, elle a une énorme pierre dans son jardin. Depuis des années, elle a décidé de défendre corps et âme les intérêts des groupes industriels et des multinationales.
Oui, enfin, c'est les emplois aussi, la Commission européenne. européennes essayent de faire en sorte qu'il y ait des emplois en Europe.
Ok, d'accord, mais pas au détriment de la santé des Européens, parce que finalement, avec toutes ces décisions ou ces non-décisions, on se retrouve avec une alimentation européenne, par exemple, qui est le grand laboratoire européen de certains scientifiques, et on se retrouve avec des citoyens qui sont devenus des cobayes. C'est totalement inacceptable. Vous et moi, on est régurgite
des cobayes. Juste précision, les cobayes en belge, ce sont des cobayes en français.
Vous et moi, on ingurgite des OGM, on ingurgite des nanoparticules, on ingurgite des perturbateurs endocriniens, alors qu'on ne le sait pas, alors qu'on n'a jamais, à aucun moment, donné notre consentement. Et ça, c'est totalement inacceptable. Il y a vraiment, effectivement, une réflexion de la Commission européenne de travailler à l'américaine, de mettre en l'air le principe de précaution, et donc de partir du principe qu'il faut d'abord prouver que quelque chose est dangereux avant de le retirer du marché.
Comme le gaz de schiste.
Comme le gaz de schiste, mais surtout comme l'amiante. Ben, je rappelle aussi que l'amiante, aimablement, on a accepté l'amiante en disant « Oui, mais vous inquiétez pas, il y aura probablement pas de danger à moyen terme ou à long terme. » Et finalement, il y en a eu. Et ça, on ne peut évidemment pas accepter. Et moi, j'ai un problème, en tout cas, à ce que 500 millions d'Européens deviennent, donc que les tests soient faits sur 500 millions d'Européens et pas en amont de ça.
Jean Quatremer.
La Commission européenne a bon dos, qu'elle soit du côté des industriels, c'est sans doute vrai, mais derrière, il y a les États. L'exemple de l'amiante, par exemple, à l'époque où l'amiante était autorisée dans l'ensemble des pays européens, la Commission n'avait strictement, ou l'Union européenne n'avait strictement aucune compétence. Je veux dire que toutes les dérives en matière de santé publique, ça ne se concentre pas au niveau européen. Alors c'est vrai que l'Union européenne a les épaules larges, mais elle n'est pas toute seule. Et derrière, ces industries sont des industries nationales, et si la Commission ne bouge pas ou les défend, c'est parce que vous avez une majorité d'États membres qui ne veulent surtout pas qu'on touche aux intérêts des industriels, parce que derrière les industries, il y a de l'emploi. Donc, encore une fois, alors si la Commission propose d'interdire que le Parlement interdit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des entreprises qui vont dire qu'ils vont fermer, délocaliser, etc. Et on va encore une fois accuser l'Union européenne. C'est-à-dire que le vrai danger dans ce type de discours que moi j'entends, parce que je suis très sensible aux questions de santé publique, mais c'est aussi de dire, de rendre l'Union européenne responsable de tout ce qui ne va pas en Europe. Quoi qu'on fasse. Donc ça me gêne un petit peu.
Oui, alors Michel, moi, vas-y. Je voudrais aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que vous dites. La Commission a élaboré deux définitions sur les nanos. Une définition qui touche l'alimentation et une autre qui touche les cosmétiques. Bon. Et ces deux définitions ne sont pas contradictoires, mais elles sont mal définies. Vous voyez, c'est à un moment, c'est des nanoparticules manufacturées. Et dans d'autres, c'est intentionnellement. Ce qui fait que quand même, là, c'est le départ du départ. Si un industriel sent que, sur les bonbons, ils peuvent vous dire « Ah, mais c'est pas moi qui l'ai mis intentionnellement. Ça a existé. » Ce qui est faux, parce que le dioxyde de titane, il n'existe pas comme ça. Donc, ça veut dire
la conséquence, c'est quoi? Parce que c'est l'association Agir pour l'environnement qui a révélé qu'il y avait des nanoparticules dans des bonbons, dans des sucreries, mais que ça n'apparaissait pas sur l'emballage.
Exact. Ça, c'est
la faille.
La faille, c'est que, et c'est, alors là, je vous rejoins, les États membres, vu que c'est passé, c'est une directive de 2011, les États membres doivent le transposer et doivent obliger les industriels à marquer étiquetage. Mais la Commission doit contrôler les États membres si ça a été fait ou pas. Vous voyez, il y a deux niveaux. Moi, ce dont j'ai peur, regardez, on a mis des années à se bagarrer sur la réglementation REACH qui a permis d'éliminer les produits toxiques ou d'une part...
Les produits chimiques
toxiques. Les produits chimiques toxiques et surtout de faire une étude sanitaire et environnementale avant, vous voyez, de savoir si c'était dangereux ou pas et de les éliminer. Là, on est dans ce cas de figure. On a une explosion d'utilisation de nanoparticules. On sait et on a plein d'alertes que quand on donne les particules à des rats, ils ont des cancers de poumon, ils ont une fibrose du poumon. On voit que ces bioparticules, et là, le scandale du scandale, c'est quand même les médicaments. Moi, j'ai ici une lettre d'une commissaire qui dit « Il faut interdire le dioxyde de titane dans les cosmétiques. » Bon. J'interroge le commissaire de la Santé, je dis « Monsieur le commissaire de la Santé, est-ce qu'il y a des nanoparticules dans les médicaments ?» Il dit « Je suis incapable de vous le dire. » Moi, j'ai fait une enquête et j'ai même fait des mesures dans les vaccins, c'est bourré de nanoparticules.
Et on peut imaginer quand même que les industriels sont pas non plus complètement délirants. Ils vont pas mettre des produits des nanoparticules dans des produits, notamment des médicaments, qui vont donner des cancers.
Enfin, alors, parce que les laboratoires pharmaceutiques, vous leur faites confiance pour que dire que les médicaments.
Je n'ai pas dit que je leur fais confiance, mais là, on rentre dans une espèce de complotisme.
Alors,
faire attention, il y a des raisons.
La subtilité, Jean, c'est ils ne vont pas mettre, mais s'il y en a, c'est pas de leur faute. un exemple. En Belgique, des toxicologues ont mis en cause le dioxyde de titane, notamment dans des sucreries. Donc, il y a un toxicologue d'université qui a sorti son étude, qui a fait grand bruit. Et derrière, l'industrie alimentaire belge a expliqué que l'industrie alimentaire n'utilisait pas le dioxyde de titane, ou en tout cas que sous sa forme non-nano. Et donc ça, on a le droit. Et selon eux, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, valide totalement le dioxyde de titane sous sa forme non-nano. Et c'est ça qui assure une couleur blanche. C'est ça qui fait que dans les M&M's, il y a les couleurs qui sont fixées, etc. Sauf que j'ai parlé avec le porte-parole de la FEVIA, l'industrie alimentaire belge, pour lui demander sa position et plus de précision. Et il dit, alors, en revanche, il y a quand même des restes de particules nano qui sont toujours dedans, mais bon, voilà, c'est parce que on a mis du dioxyde de titane et qu'il y a un petit peu de nano autour.
Ben vous voyez bien qu'il y a un laxisme. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Et c'est pas compliqué, c'est entre 1 et 100 nanomètres. Donc, dans ces particules, pourquoi ils utilisent du dioxyde de titane? Moi, j'ai même eu des témoignages de salariés, vous voyez, parce qu'il y a une entreprise qui fabrique ces bonbons près de Strasbourg, qui dit, mais il y avait un sac où il y avait marqué nanoparticules de dioxyde de titane. Donc vous voyez bien que là, l'industriel est en train de nous mentir et que les États membres font pas leur boulot de contrôle et que la Commission est pas assez draconienne. Parce que qu'il y ait une différence de définition comme ça, ça, vous voyez, ce flou, il y a toujours un loup dans le flou. Hein et ils profitent de ça, sachant que ça touche la santé des gens.
J'ai l'impression que le problème, c'est que... D'abord, beaucoup de citoyens consommateurs s'en fichent un peu, que d'autre part, il y a le côté, je reviens toujours avec ça, effectivement, il y a une co-décision, les États membres sont partiellement responsables et l'Europe aussi, et puis il y a quand même des réglementations qui défaillent, c'est-à-dire, je reviens avec l'histoire des perturbateurs endocriniens qui est exactement parallèle à celle-là, on a une étude d'experts qui est faite pour savoir si les perturbateurs endocriniens sont toxiques ou pas, et la décision...
Et qui a financé l'étude?
Alors ça, je ne sais pas, par contre...
Non, mais a priori, ils sont de quel côté?
A priori, ils sont plutôt du côté du grand et de la multinationale, en tout cas sûrement pas celle du consommateur. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, la conclusion de la commission était écrite alors que le groupe d'experts se réunit seulement pour la première fois avant 3 mois de rencontre. Donc ça veut dire que finalement, il y a eu trucage ou en tout cas manipulation large de ces groupes d'experts. Et donc chaque fois, on se retrouve en face de petites associations de consommateurs qui finalement ne pèsent pas grand-chose en face des industriels. Après, j'ai bien conscience que il y a des emplois en jeu, j'ai bien conscience qu'il y a un chiffre d'affaires en jeu, j'ai bien conscience de ça. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas nécessairement ni contre les nanoparticules, ni contre les OGM. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Et c'est le problème, c'est ça, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences.
Ouais, il faut voir que les nanotechnologies, bon là on est en train d'en faire un nouvel épouvantail comme on l'a fait pour les OGM, mais c'est aussi un des progrès médicaux absolument incroyables en matière de lutte contre le cancer. Par exemple, aux États-Unis, il y a déjà des expérimentations de nanotechnologies qui permettent de faire reculer des cancers qui avant n'étaient même pas curables. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qu'on a fait avec les OGM. À force d'être là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux.
Oui, mais on est ravis qu'il n'y ait pas d'OGM parce qu'il y a moins de pesticides. Donc ça a été un combat qu'on a...
Il faut pas jeter les recherches scientifiques et la science de manière générale.
Mais
il n'est pas normal que ce soit les 500 millions d'Européens qui soient les cobayes ou les cobayes selon où on habite. Et ça, c'est totalement inacceptable.
Voilà, Jean Quatremer est ravi, il va pouvoir continuer à manger de la blanquette de veau et derrière les progrès médicaux que nous allons évoquer juste après la pub, lui viendront en aide. On va également parler de l'exemple de l'Allemagne qui voit le côté business. Et là-bas, les nanoparticules, ça perturbe personne. C'est vraiment vu comme une source de progrès à la fois pour la vie de ses habitants et pour la prospérité du pays. Et puis, quelle réglementation européenne en vue? Michel Rivasi n'arrête pas d'écrire à la Commission européenne. Elle prend son téléphone toute la journée pour appeler la Commission européenne. On va voir s'ils vont bouger. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Après les OGM, le TTIP, le gaz de schiste, le nouvel épouvantail pourrait bien être les nanotechnologies. Alors on dit ça avec légèreté, mais ça pourrait effectivement être le prochain scandale sanitaire. C'est ce que pointe, en tout cas c'est ce que nous explique Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie, Les Verts sur notre plateau. Les Verts, mais avec une belle veste rouge qui flash sur notre plateau ici. Jean Quatremer de Libération.
Elle va se présenter, je crois, à la primaire de gauche.
Avec avec, ah, avec Mélenchon.
J'ai fait la primaire des écologistes.
Voilà, mais justement, mais vous avez l'entraînement.
Mais moi, je défendrai toujours l'écologie, le bien-être et la qualité
vous
de vie.
Vous tutoyez Jean-Luc Mélenchon ou pas?
Oui, je le tutoie.
Et à la télé, écoutez,
aussi à la télé, j'assure.
Il est très sensible.
Et vous tutoyez aussi Castro quand il était vivant?
Ah non, j'ai pas eu l'honneur de le rencontrer.
Bon, Emmanuel Foulon est là également, spin doctor du Parti Socialiste Belge ici au Parlement européen. Nous parlons des nanotechnologies avec ce cas en Allemagne. En fait, les Allemands, ils ont œuvré très tôt pour rendre acceptables les nanotechnologies il y a une dizaine, quinzaine d'années auprès du grand public. Du coup, là-bas, c'est vraiment vu comme une source de progrès. D'ailleurs, les Allemands sont devenus leaders du marché des nanotechnologies en Europe, troisième détenteur de brevets dans le monde, derrière les États-Unis et le Japon. Et en parallèle, le consensus social autour de la question des nanotechnologies n'incite pas les autorités à renforcer la réglementation et les contrôles. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que c'est surtout réglementé en France, en Belgique et au Danemark, les nanotechnologies, sinon...
C'est la politique du pas vu, pas pris. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait d'une faille dans la réglementation avec des définitions qui ne sont pas très claires. Donc, on s'engouffre là-dessus. Et... que les choses soient claires, moi, sur les nanotechnologies, je ne suis pas contre sur le principe. Je veux, un, que le consommateur soit informé. Quand j'achète des aliments et que j'ai le choix d'aliments qui n'en contiennent pas, je vais choisir des aliments qui n'en contiennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études alarmantes, alarmantes, qui sont faites et qui montrent que ça peut provoquer des cancers. Ou quand je vaccine mes enfants, eh bien, je veux savoir si dans le vaccin, il y a des nanoparticules parce que ça va s'accumuler dans son cerveau, dans son corps. C'est légitime. Après, on me dit, la médecine est très intéressée par ça. Très bien. Mais que je sache pourquoi. Parce que demain, dans ce verre d'eau, ben, il pourra y avoir des nanoparticules qui vont me tracer, sans que je le sache. Qu'est-ce qui va empêcher une entreprise de se dire, tiens, ben maintenant, votre carte d'identité, ben, c'est... vous voyez, des microparticules qui vont aller dans votre corps, vous allez passer sous un portique et on saura tout de vous. Qu'est-ce qui vous empêche que dans le bioterrorisme, on fasse, on développe des nanoparticules pour faire en sorte à ce que votre conscient intellectuel soit déficient?
C'est trop tard.
Michel Rivasi, des perches comme ça, vous êtes mis d'accord pendant la pause?
Pas du tout.
Des perches comme ça, ça va pas.
Merci Michel Rivasi.
Non, bien sûr.
Arrêtez de boire.
Non, mais c'est ça qui m'inquiète. C'est le pouvoir, vous voyez, sans être complotiste, mais c'est quand même une arme redoutable, les
amis. Vous dites sans être complotiste. En fait, Michel Rivasi, vous dégagez toujours une telle joie de vivre, mais à chaque fois que je vous invite sur un plateau, c'est pour alarmer sur les médicaments, sur les perturbateurs endocriniens, sur les nanoparticules.
Alors, Yann Anthony, là où Michel Rivasi a raison, c'est que, et ça c'est absolument incontestable, dire s'il n'y a rien à cacher, il faut donc tout montrer. Si ce n'est pas dangereux, il faut donc, dans ce cas-là, l'afficher. Les consommateurs, les citoyens, parlons pas de consommateurs, les citoyens ont le droit de savoir. Moi, ce qui me gêne, et c'est là je rejoins les critiques que vous portez à l'égard de la Commission, mais aussi des États membres qui sont derrière la Commission, c'est qu'effectivement, l'argument, c'est de dire c'est pas dangereux, donc les citoyens n'ont pas besoin de savoir. Ça, c'est un argument qui est absolument terrible. Intenable, ouais. Terrible, et effectivement, qui suscite des méfiances. Au-delà du raisonnable. On l'a vu sur le bœuf aux hormones, sur le poulet à l'eau de Javel, sur toutes ces questions sur les OGM, etc. Parce qu'au final, la volonté de dissimulation, ça crée la peur. Et je pense que c'est une mauvaise politique, tant de la part des États que de la Commission européenne, que d'aller dans ce sens. Ouais. C'est une grave erreur. Donc le droit de savoir, c'est quelque chose qui n'est pas négociable.
Mais notamment en termes d'imagerie moléculaire, on parle des avancées médicales, ça peut vraiment nous apporter énormément. On pourrait... tout détecter, parce que si on arrive à vous tracer à travers votre verre, on va pouvoir détecter
tout type de
maladie.
Si c'est clair, si c'est indiqué, on va faire des traceurs, par exemple, pour tuer les cellules tumorales. Voilà. Vous voyez, plutôt que de mettre des rayons qui vous bousillent les cellules autour. Mais oui, mais à partir du moment où c'est clairement indiqué. Vous voyez, Grenoble, vous citez d'autres pays, mais cette ville de Grenoble, c'est une ville où on développe énormément les nanotechnologies. Quand je dis aux industriels, dites-moi ce que vous faites, on me dit secret d'affaires. C'est ça que je tolère pas. Et je le tolère d'autant moins qu'il y a des fonds publics qui leur sont donnés. Vous voyez, pour augmenter la recherche. Moi, je dis, fonds publics, développons la recherche, d'accord, mais je veux savoir ce qu'il faut.
C'est ça, il nous appartient pas non plus de décider ce que le consommateur doit consommer ou pas. Par contre, il est absolument indispensable que le consommateur consomme en tout état de connaissance. Et donc puisse décider par lui-même, ok, moi je veux bien manger des nanoparticules ou je veux bien mettre des choses qui ont des nanoparticules, même chose pour les perturbateurs endocriniens, même chose pour les OGM. On n'est pas pour, on n'est pas contre. C'est au consommateur de décider et pour l'instant, il n'a pas les informations. Après, il y a aussi tout un travail de pédagogie à faire, d'expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien, ce qu'est une nanoparticule, et le consommateur pourra faire le choix par lui-même. Ça, c'est important.
Mais Jean, mais d'accord, mais après, là, on a eu le même débat sur les perturbateurs endocriniens et autres. Quelle est la différence d'ailleurs entre les nanoparticules et les perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'ils se rejoignent?
Non, pas du tout.
Non?
Non, les perturbateurs, si vous voulez, c'est des molécules chimiques.
Vous avez été victime des nanotechnologies, qui... vous.
Je pose la question.
Non, c'est plutôt les perturbateurs endocriniens sur aussi le côté intellectuel. Non, c'est des molécules chimiques qui, si vous voulez, perturbent
Excusez-moi,
le fonctionnement
juste
hormonal.
Michel, voilà. Oui. Non, c'est juste parce que Jean m'a chambré. Quelle est la différence, Jean Quatremer, entre les perturbateurs endocriniens et les nanotechnologies?
Joker.
Voilà, d'accord. Non, je voulais juste être sûr. D'accord. Donc, vous venez de dire, Michel, que les perturbateurs endocriniens perturbaient nos hormones.
Oui.
Ce n'est pas le cas, a priori, des nanotechnologies?
Non. Non. Ça passe dans la barrière, si vous voulez, au niveau du cerveau, il y a une barrière, vous voyez, qui filtre le sang par rapport au sang qui va au cerveau. Ça peut s'accumuler et ça peut provoquer des problèmes neurologiques, neurotoxiques. Ça peut entraîner ce qu'on appelle la myofascie à macrophage. Ça peut entraîner, si vous voulez, le fait d'être tout le temps fatigué. Ça peut entraîner des dysfonctionnements du métabolisme. C'est quelque chose, ces nanoparticules qui sont terribles. On dit augmentation du cancer, augmentation de maladies neurologiques, Alzheimer potentiel, etc., etc. Et moi, je dis, là, plutôt que de dire on banalise tout, faire ce que font les industriels avec la complicité de la commission, moi, je dis, faisons des études. Nos data, nos markets.
On ne les fait même pas, les études.
Mais nous.
Donc, c'est l'industrie qui finance des études pour dire que c'est bon.
Alors, soit c'est ça, et soit nos agences, dont le Skenir, qui est quand même, si vous voulez, l'ensemble des agences européennes, enfin, des laboratoires européens qui donnent des avis, eh bien, ceux-là ne font pas suffisamment d'études. Et on devrait dire, on autorise, par exemple, le dioxyde de titane ou les microtubes de carbone, que si les études sanitaires sont valides.
Sur l'importance de l'affichage et de l'information, on vient d'avoir un exemple récent. Par exemple, sur les déodorants. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre, on vous met la composition du déodorant. Et notamment, du sel d'aluminium dans tous les déodorants qui sont des antitranspirants. Et on avait exigé ça. Et l'industrie, effectivement, n'a pas vu malice. Elle dit, oui, d'accord, je l'affiche. Sauf que là, il y a eu des études scientifiques qui viennent de prouver qu'il y a un lien direct entre les déodorants contenant des celle d'aluminium et l'explosion des cancers des seins chez les femmes, parce qu'on s'est aperçu que le cancer des seins chez les femmes était essentiellement périphérique. Donc le lien a été établi. Alors les industriels maintenant sont très gênés. Ah, on va étudier, on n'est pas tout à fait certain d'eux, mais maintenant les consommateurs sont avertis. C'est-à-dire que moi maintenant je regarde la composition, je vois celle d'aluminium, je prends pas, je prends maintenant effectivement des déodorants qui ne soient pas, qui ne contiennent pas de celle d'aluminium.
Moi, je suis content d'apprendre que Jean Quatremer porte du déodorant parce que je m'étais posé la question.
Et alors, deuxième chose, alors c'était un exemple, mais le second problème qu'on a avec la Commission européenne et avec les institutions européennes, c'est le fait que la Commission européenne est à la fois chargée de proposer des législations et chargée de contrôler leur mise en œuvre et leur application. L'exemple des perturbateurs endocriniens, c'est typique. C'est-à-dire que vous avez la Commission qui a proposé justement de pouvoir interdire un certain nombre de pas de médicaments, mais de cellules ou je sais pas comment on appelle ça, les perturbateurs. Non, vous savez, le fait que la Commission...
Là, on le laisse patauger.
Voilà. Non, la Commission a proposé donc une législation, un cadre législatif qui aurait permis d'interdire les perturbateurs endocriniens. Sauf que à l'arrivée, il fallait que ce soit la Commission qui décide de les interdire. Donc le cadre, c'est très bien, c'est un cadre qui est effectivement extrêmement, je dirais, en avance par rapport à l'ensemble des législations qui existent à l'étranger. Sauf que c'est la Commission elle-même qui est chargée ensuite de l'appliquer. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ce que disent les Américains. Ils disent, nous, le gouvernement propose des législations, mais c'est une agence indépendante de l'environnement qui applique ces législations. Oui, une agence indépendante du médicament, une agence indépendante de la santé. Et ici, la Commission a tous les rôles. Donc, à un moment, la Commission propose et puis elle est à la réception. Et là, vous avez la Direction Générale du Marché Intérieur, Direction Générale de l'Industrie, etc., qui dit non, on bouge pas.
Vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas le moment.
Et donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, je pense qu'il faut démanteler en partie la Commission européenne. C'est une des sources des problème que l'on a aujourd'hui.
C'est-à-dire et que vous venez de dire, il faut démanteler.
Oui, démanteler. La Commission européenne doit revenir à son rôle, qui est celui de proposer la législation, et en aucun cas de contrôler la législation. Tout ce qui est le contrôle de la législation, l'application de la législation, ça doit être sorti de la Commission européenne, parce qu'il y a trop de mélange d'intérêts.
Vous imaginez quoi ?
Par exemple, une agence indépendante de l'environnement, une agence totalement indépendante de la santé.
Et ça, c'est le sur modèle. Le papier, puis après, les experts...
Oui, mais au moins, vous effectuez les conflits d'intérêts.
Vous avez vous dit, et absolument. Oui, non, et le problème aujourd'hui...
C'est un problème large. Hein. Des experts Michel peuvent être très bien financés par les industriels. Méfiez-vous, regardez même Trump, qui est en train de vouloir complètement démanteler l'Agence américaine de l'environnement, l'EPA, qui fait un boulot incroyable. Et vous voyez que le politique peut... démanteler une agence qui est là pour contrôler. Moi, je crois que la grosse différence entre l'Europe et les États-Unis, justement, c'est l'Europe, elle était quand même sur un principe de précaution, de dire, si c'est dangereux, on l'interdit. Alors que les États-Unis, ils sont sur une évaluation de risque. Ils disent, mettez la molécule et après, on verra le nombre de morts par rapport à la gestion, etc.
En Europe,
c'est
si
deux
ça,
approches
si
complètement
si
différentes.
Ça peut être dangereux,
et la Commission, ça, avec ses traités transatlantiques de libre-échange, eh bien, est en train d'aller sur les positions des États-Unis. Bon, moi, vous êtes assez draconien sur la Commission. Moi, la Commission, j'arrête pas de les interpeller. Mais si la Commission, s'il y a de très bons fonctionnaires qui sont sur l'intérêt général, pendant toute une période, elle faisait bien son boulot. Sauf qu'elle est devenue très politique. Vous parlez des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on a proposé à la Commission ? C'est que les industriels sont venus pour dire « Ah non, 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 les critères pour définir un perturbateur endocrinien, ça ne nous va pas. Nous, on veut déjà une étude d'impact économique. Combien ça va coûter à l'économie ?» C'est ça qui est politique et ce n'était pas son boulot.
Michel,
c'est pour ça que la Cour de justice européenne nous a donné
Mais moi, je pense que le problème, il est constitutionnel. Je me rappelle, par exemple, à la fin des années 90, sur l'interdiction des piles au cadmium, où il y avait une petite unité... au sein de la Direction Générale Environnement qui voulait interdire les piles au cadmium parce que tout simplement il y avait un cadre législatif qui permettait l'interdiction des piles au cadmium qui n'étaient pas recyclables, qui étaient extrêmement dangereuses et pour la santé humaine et pour l'environnement. Ils se sont battus pendant des années. La Commission et la Direction Générale Marché Intérieur a tout fait pour tuer les gens qui étaient à l'origine, qui voulaient obtenir cette interdiction, et parce que, tout simplement, ils avaient les moyens. Donc la Commission, il faut enlever, vraiment, je pense qu'il faut démanteler la Commission de ce point de vue-là, c'est-à-dire enlever le pouvoir d'interdire un produit à la Commission, parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu, et donner ça à des agences indépendantes. Je vous assure, déjà, on éviterait une partie des conflits d'intérêts internes auxquels on assiste
on
aujourd'hui.
On appelle ça utiliser le bazooka pour tuer un moustique, on lui parle à nanoparticules d'une taille de 100 à 1000 fois inférieure au diamètre d'un cheveu. Et lui, il dit, il faut démanteler la Commission européenne, il faut tout casser.
Non, Michel Rivasi. Vous parlez d'épouvantail, mais finalement, c'est révélateur de plein d'autres dossiers. C'est pour ça qu'on les évoque tous ici.
Oui.
Et il y a un vrai problème d'indépendance. Et d'ailleurs aussi pour les études, même le citoyen est perdu. Parce que pour une étude qui dit oui, c'est bien, vous avez l'autre étude qui dit son contraire. Et visiblement, le choix quand même des études... diligentés par la Commission européenne sont souvent orientés et donc ça pose un vrai problème aussi de fond.
Oui, Michel Rivasi.
La solution, c'est la transparence.
Ah, tout à fait.
Pourquoi, si vous voulez, on n'est pas d'accord avec les études de l'EFSA? Parce qu'ils veulent pas nous les donner, elles sont pas publiques. Et dès qu'on touche sur l'opacité, eh ben de suite, il y a, voyez, le diable est dans les détails.
On dit tous et on dit tous en cœur. Transparence. Voilà. On est d'accord là-dessus.
Ok. Messieurs, dames, Michel Rivasi, j'ai l'impression d'être au bistrot du commerce, là. Café du commerce. Michel Rivasi, Jean Quatremer et Emmanuel Foulon. Vous restez avec nous juste après. Éric Scholl va nous rejoindre pour la revue de presse européenne. Ah, il va nous faire voyager. Ah, je vous propose ce week-end le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et la Belgique. À tout de suite.
BFM Business. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en compagnie de Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. On regrette bien qu'elle n'ait pas pu franchir le second tour des primaires des Verts et devenir la candidate des Verts au présidentiel, parce que vous avez quand même un message. On aime beaucoup Yannick Jadot et qui peut être un très bon candidat pour vous, mais c'est vrai que vous avez aussi des choses à dire.
Ah ben sur la santé, la qualité de vie, le bien-être. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a un candidat écologiste à cette présidentielle.
Voilà. Je préfère une femme.
Exactement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes.
Oui, parce qu'il n'y a que Marine Le Pen, finalement, et le Front National et Marine Le Pen.
Ouais. Et on aurait préféré une femme, c'est Jean Quatrefages. Il vous fait penser au film de Fellini avec le type dans son arbre qui crie « Je veux une femme, je veux une femme !» Jean Quatrefages de Libération, Emmanuel Foulon, spin doctor du Parti Socialiste Belge, nous rejoint par téléphone, en connexion, pardon, dans le studio de Courrier International à Paris. Éric Scholl, bonjour Éric.
Bonjour Yann Antonio.
Alors de quoi allez-vous nous parler, ou plutôt, où nous emmenez-vous dans votre revue de presse cette semaine?
Je vous emmène au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et puis en Belgique.
Ah bah formidable, voilà. Bah, en Belgique on y est déjà, là vous me faites pas trop rêver, mais Royaume-Uni, Suisse, Norvège, ça je suis preneur. La revue de presse.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Alors Eric, une question au Royaume-Uni qui pourrait intéresser notre comparse Quatremer. Pourquoi les Toblerones ont rétréci?
Et oui, effectivement, les barres chocolatées, eh bien, ce ne sont plus les mêmes depuis le début novembre. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est passé un phénomène. En anglais, on appelle ça la shrinkflation. En français, on parle d'un terme barbare, la rétréciflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à prix constant, eh bien, la quantité de produits diminue. Et donc, eh bien, c'est très simple. Il y a moins de chocolat dans une barre chocolatée. Et tout ça pour compenser la hausse du coût des matières premières.
Bon.
Alors, oui. Alors effectivement, on a réduit de 10% le poids des barres de Toblerone depuis début novembre. Et vous savez, au lieu de faire ça uniformément, vous savez ce qu'ils ont fait, l'industrie a fait, il a élargi l'espace entre les différents triangles de chocolat.
Ah oui, on le voit à l'image là. Ouais, ouais,
ça a été une bronca sur les réseaux sociaux, nous explique le Financial Times, puisque tout de suite les consommateurs se sont déchaînés en expliquant que le Toblerone ne ressemble plus à rien, sinon un porte-toast ou alors un parking à vélo. Mais alors beaucoup plus sérieusement, pourquoi est-ce que cette décision? Eh bien, effectivement, à cause du coût du chocolat. Et c'est là où ça devient très compliqué, parce que quand on y regarde de près, on s'aperçoit que le cacao lui-même, le cours de cacao a plutôt baissé. Mais ce qui monte depuis un petit moment, c'est le beurre de cacao, le prix du beurre de cacao. Et ça, on ne peut pas s'en passer, parce que vous savez, c'est ça, c'est cette nature qui va permettre de donner cette sensation du fondant au chocolat. Et ça a pris 40% en un an à cause des achats spéculatifs, des hedge funds, et voilà le résultat, votre moins de chocolat dans votre barre de Toblerone.
C'est un bon exemple. Donc j'ai précisé qu'à l'image, on le voyait, c'est pour attirer nos auditeurs vers l'émission en télé. C'est étonnant, ça, Emmanuel Foulon. Donc c'est ça, il y a moins de chocolat et on a écarté les triangles du Toblerone au Royaume-Uni.
Eh bien non, ce n'est pas du tout étonnant. C'est-à-dire qu'on a déjà ici demandé des comptes du Parlement européen vers les industries agroalimentaires, parce qu'il s'avère qu'un tout un nombre de produits pour l'instant sont en train de vider certains produits de leur essence en vendant le même prix par exemple. C'est une pratique de plus en plus courante et donc c'est quelque chose qu'il faut aussi dénoncer, parce que de ce point de vue-là, l'agroalimentaire ment de manière indirecte aux consommateurs et c'est totalement inacceptable.
C'est vrai que quand une société veut augmenter sa marge, au lieu d'augmenter son prix, ce qui peut rendre la tâche commerciale plus difficile, il suffit d'enlever 10% du produit et a priori les consommateurs n'y voient
plus
feu.
C'est un peu comme le Parti Socialiste Français, petit à petit vidé de son idéologie de gauche.
C'est comme ça que ça marche, vous pensez?
Je pense.
Michel Rivasi, vous avez été socialiste?
Vous avez tort.
J'ai été apparenté socialiste. Et lorsque j'ai vu que pour eux l'environnement et l'écologie, c'est pas du tout dans leur logiciel, ils sont complètement à côté. Ils sont toujours, vous voyez, sur le productivisme, l'emploi, la croissance. Et il n'y a pas que, hein. Quand on voit la droite, c'est pareil. Quand on voit des vieux partis de gauche, c'est pareil. Donc c'est un nouveau paradigme qu'il faut créer. Il faut regarder la réalité, se dire comment on peut vivre. Vous voyez, tant de milliards d'humains sur une planète qui est finie. Voilà, il faut se reposer à notre modèle de société.
Là, vous parlez d'une logique de... On pourra dire que Michel Rivasi n'est pas une démagogue, hein, parce qu'elle est sur l'antenne de BFM Business et a dit, quand on voit là tous ces affreux qui sont obsédés par le productivisme, l'emploi, la croissance...
Mais ce que vient de dire Richel
qui représente quand même notre ADN.
Ce que vient de dire Richel est aussi tout à fait intéressant, parce que il explique que la flambée du prix du beurre de cacao est due à la spéculation financière, donc de la City. Et finalement, moi, je trouve ça très bien que nos amis britanniques soient victimes de la spéculation financière qu'ils ont eux-mêmes encouragée. D'ailleurs, le Brexit aussi est une conséquence de cette spéculation financière et de ce pouvoir donné à la City contre lequel les citoyens se sont révoltés. Eh ben, le Toblerone qui ressemble maintenant à des parkings à vélo, eh ben, je trouve ça très bien. C'est une sanction immanente, on va dire.
Alors, Eric, direction la Suisse à présent, où la discrimination contre les travailleurs étrangers s'institutionnalise.
D'une certaine façon, on reste un peu en Suisse parce que ce que je vous avais oublié
de vous dire,
c'est le Toblerone, c'est Jean Tobler qui l'a inventé. Il reste fabriqué toujours aujourd'hui en Suisse, à Berne. Et ça a été quand même inventé, créé en 1908. Vous voyez, c'est pas nouveau le Toblerone, même si on est un peu moins aujourd'hui dans les bars. Alors, en Suisse, cette fois-ci, c'est Le Temps, le journal Le Temps, qui nous explique, qui s'insurge même contre les effets d'une directive. Alors, c'est pas une directive européenne, c'est une directive suisse, et je dirais que c'est une directive même cantonale, qui incite les institutions à privilégier les demandes d'emplois locaux. Et les institutions, eh bien, c'est 250 institutions. Ça va de l'administration, mais aussi toutes les départements qui sont subventionnés, les transports, les hôpitaux, les universités, pour leur dire, eh bien, maintenant, il faut vraiment recruter des locaux. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est visé? Ceux qui sont visés, c'est les transfrontaliers, c'est ceux qui viennent notamment, d'ailleurs, des départements de France, de Haute-Savoie ou de l'Ain. Ils sont 100 000, hein, chaque jour à franchir la frontière. Et aujourd'hui, on observe, hein, du côté de Genève, cet aspect négatif du frontalier, ce que nous explique le journal Le Temps, et il y a cette préférence cantonale qui est de plus en plus marquée et qui commence à inquiéter un petit peu. Alors que pourtant, si on regarde en termes de chômage, eh bien dans la région de Genève, le chômage ne dépasse pas 5,5% de la population active.
Donc après la priorité nationale, on en est à la priorité cantonale maintenant. Même les étrangers, ils n'ont plus besoin de venir de loin pour qu'on ne les aime pas. Maintenant, même juste de l'autre côté de la frontière, même à quelques kilomètres, on n'en veut plus. Michel Rivasi.
Ouais, je trouve qu'il y a un retrécissement des échanges, de la pensée. Alors autant qu'on préfère nationalement que les gens puissent travailler là où ils sont, pourquoi pas, mais là, moi, ça me fait peur, cette orientation qui est donnée, parce qu'on a l'impression que tout ce qui vient, vous voyez, au-delà de nos frontières visuelles, c'est des étrangers. Vous voyez, cette notion de géographie m'inquiète beaucoup.
Ben c'est parce que la notion d'européen n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour, qu'il n'y a pas encore un sentiment européen. Et c'est d'autant plus paradoxal dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de problème de chômage dans cette localisation-là. Et qu'on vient aussi d'une votation qui voulait refuser tous les transfrontaliers. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, Salvini et Le Pen s'étaient enorgueillis en disant c'est super, maintenant vous allez refuser des travailleurs transfrontaliers. Avant de se rendre compte que finalement les deux grands principaux bénéficiaires étaient l'Italie et la France. Donc on est vraiment...
Donc vous êtes en train de décorréler l'économie du repli sur soi identitaire. Vous dites, en fait, c'est pas forcément un problème de chômage, c'est juste que les gens...
Bien sûr, c'est un alibi.
Mais de toute façon, oui, on voit bien la décorrélation, effectivement, entre la xénophobie et le bien-être économique, c'est une évidence, on le voit bien. Mais par exemple, c'est la même chose en matière d'attachement européen. Les pays où il y a le plus de chômage sont les pays qui sont les plus europhiles. Et les pays où il y a le moins de chômage, à part le cas de l'Allemagne, qui est un cas très particulier, vu son histoire, c'est exactement l'inverse. Plus on est riche, plus on veut rester entre nous. Plus on est assis, tu sais, c'est un peu comme Picsou. On est assis sur son tas d'or, on ne veut pas le partager. Parce que c'est quand même assez fascinant qu'aujourd'hui, on en soit à s'enfermer à l'intérieur de nos frontières, et que les opinions publiques soient aussi défiantes à l'égard de leurs élites, alors qu'on n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais aussi bien vécu qu'en Europe. On n'a jamais été aussi bonne santé. C'est incroyable. Tant par rapport au reste de la planète que dans le temps. Et pourtant, mieux on vit, plus on en veut et moins on veut partager. C'est extraordinaire. On se fout complètement aujourd'hui qu'il y a déjà depuis le début de l'année près de 7000 personnes qui soient mortes en Méditerranée. Les gens disent qu'ils meurent, ils n'ont qu'à pas venir, c'est bien fait. Ils sont ravis. C'est ça qui est incroyable. Alors que partager un petit peu, même accueillir 1, 2, 3 ou 5 millions de réfugiés dans un ensemble de 500 millions de personnes, c'est rien. Ça ne nous coûterait rien. Donc, cette espèce de rétrécissement de la pensée, c'est terrifiant parce qu'on ne voit pas quels sont les leviers qui permettraient de l'inverser. On me dit, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la croissance. Mais non, puisque c'est décorrélé.
Tout à fait.
Et moi, en tant que biologiste, je dois dire quelque chose. C'est que plus on on est en milieu confiné, moins il y a de création et d'innovation et plus on devient débile. plus on fait de la mixité, plus on devient intelligent. Il faudrait peut-être que les gens pensent à ça.
Bien sûr.
Ça c'est l'avis de biologiste. Direction la Norvège. À présent, on va parler d'une web-série. Alors, c'est vrai que Courrier International, très à la pointe, vous cartonnez sur Facebook, vous cartonnez sur Twitter, vous êtes très fort sur les réseaux sociaux, sur Internet, et vous vous intéressez maintenant aux web-séries Scam, la série pour ados qui captive la Norvège, Eric.
Ah oui, un carton complet en Norvège et d'ailleurs pas que, puisque ça y est, maintenant on peut l'avoir ailleurs dans d'autres pays et notamment au Danemark, et c'est d'ailleurs un quotidien danois, hein, le quotidien Information qui nous parle de Scam. Scam, c'est une web-série qui suit en fait la vie d'une bande de lycéennes, c'est 5 lycéennes d'Oslo, et c'est une série qui se veut sans tabou, qui n'est pas non plus dans la moquerie, mais à essayer d'analyser un phénomène de société, ce qu'on appelle la génération Z. Scam en norvégien, ça veut dire honte, et c'est justement l'idée de raconter sans honte la vie de ces jeunes filles. Le premier épisode a été diffusé en septembre 2015. Il a battu tout de suite des records d'audience. Et depuis, la série s'est tout à fait installée. Quand on interroge ce qu'a fait le journal danois, la réalisatrice, Julie Andem, qui a 34 ans, elle explique bien qu'elle veut parler de ses filles qui subissent une énorme pression, dit-elle. Elles veulent être performantes partout, à l'école, les activités de loisirs, physiques, les petits amis, les amis. Et elles entendent le montrer sur les médias sociaux. Donc c'est ça, on suit ces jeunes filles qui ont en moyenne, c'est des jeunes norvégiennes qui ont 16 ans, et on essaye de mieux comprendre ce qu'elles font. Et d'ailleurs, ce qu'elles font, elles discutent sur Facebook, elles regardent Instagram, leurs photos de soirée du week-end, elles envisagent de donner des vêtements pour aider les réfugiés, elles parlent du film à l'eau de rose du moment, elles écoutent Justin Bieber sur leur iPhone. Scam est dans le coup, nous explique le journal danois.
Voilà.
Justin Bieber, non, là quand même ça va trop loin, moi je dis stop.
Oui, mais ça vient beaucoup. Culturellement, on sent avec Borgen, par exemple, qui est au Danemark, maintenant cette web-série, ce phénomène de société. En Norvège, on sent que les pays scandinaves bougent beaucoup sur ces questions-là.
Oui, il y a sûrement plus de pédagogie aussi faite et d'encadrement des jeunes adolescents. Je trouve que c'est vraiment un outil utile. Et c'est un outil qui se fait par Internet et par les web-séries. Donc, c'est répondre aux citoyens et aux adolescents par des moyens qu'ils utilisent au quotidien. C'est beaucoup plus intelligent.
Michel, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils jouent la jeunesse. Ces pays-là. Alors que nous, c'est très rare lorsque ce soit des jeunes, en plus des jeunes femmes, qui s'expriment sur leur vie, leur quotidien. Et ça veut dire qu'on met le paquet sur la jeunesse. Vous existez, vous avez un avenir, vous avez des rêves, ben voilà. Comment le faire partager ? C'est bien.
D'ailleurs, ce serait une idée peut-être de faire une web-série sur l'Europe, pourquoi pas, avec des jeunes, un peu humoristiques, on pourrait y réfléchir.
En toute transparence, évidemment.
La bière belge, tiens, Eric, la bière belge devient patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Et oui, vous savez, on approche de Noël et c'est des bulles, ce sera des bulles de bière, parce qu'effectivement, alors maintenant, depuis le 30 novembre, c'était fait, et ça a été fait d'ailleurs à Addis Abeba, c'est là où la bière belge a été consacrée, donc inscrite à ce patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors la Libre Belgique a tiré son coup de chapeau pour la bière belge, en expliquant que cette culture, la culture de la bière, fait partie de l'ADN belge, par-delà toutes nos spécificités linguistiques, explique la Libre Belgique. Donc un petit coup de chapeau, et à Noël, donc, de la bière.
Ouais, on lève notre chope à la bière, tiens, le Belge l'étape, Emmanuel Foulon.
Ouais, c'est l'occasion de me faire mousser, évidemment. Mais, Non, mais c'est grand bonheur, et je trouve ça bien, parce qu'il y a énormément de gens, d'abord qui en consomment, évidemment, en Belgique, mais surtout qui en produisent, et ça représente vraiment notre patrimoine. On se moque souvent des frites, mais on espère secrètement que les frites, un jour, se seront connues aussi comme patrimoine international. Le patrimoine universel, parce que c'est quelque chose qui nous touche et qui édicte finalement notre quotidien.
Oui. Là, c'est pas un gag. Vous voulez que les frites soient reconnues au patrimoine.
Au-delà, ce n'est pas du tout un gag. Et d'ailleurs, il y a des démarches qui sont faites effectivement pour que ça. Vous savez, par exemple, en Belgique, on a la journée de la frite. Ouais. Et donc une journée où on célèbre la frite dans les différentes édifices, qu'ils soient politiques, chez les fonctionnaires, dans les entreprises. Et c'est la journée de la frite.
On célèbre la frite?
On en mange, par exemple, en buvant une bonne bière.
Mais en France, on a Voltaire. Eux, ils ont les bières et la frite, quoi. C'est, voilà.
Oui, ils ont Hergé aussi.
Et avoir la frite en Europe, on fait partie de ça.
Ils ont aussi les primitifs flamands. Ils ont aussi des belles choses. Vous buvez de la bière, Michel Rivasi ?
Alors, non, j'aime pas la bière, j'aime le vin. Oui. Mais je vais vous raconter quand même quelque chose sur la bière. On a fait une étude sur savoir si on avait des pesticides dans les urines. Et tous les verts ont fait des études. Et on s'est aperçu que moi, j'en avais très peu, par exemple. Et puis, je voyais mon José Bové ou d'autres personnes qu'elle avait beaucoup. Alors, on a fait le bilan. Eh bien, c'était les buveurs de bière qui avaient le plus de pesticides dans les urines.
Oui, tout à fait.
Vous avez testé voilà. tout, c'est-à-dire vous avez dit, bon, cannabis, qui fume du cannabis? Bon, tout le monde. Non, ça va pas être un marqueur.
Chez les verts, ouais.
Qui prend la...
Non, et c'était marrant.
La médecine
c'était...
par les plantes. La médecine par les plantes, bien sûr.
C'était les gros buveurs de bière qui avaient le plus de
tests,
pesticides.
Les
voilà,
chez
terrible.
Les verts. Merci beaucoup, Michel Rivasi, eurodéputé. Europe Écologie Les Verts qui lève son verre oui. d'eau sur le plateau.
Pour il n'y a pas de bière et pas de vin sur le plateau.
On n'a pas encore de bière. Merci beaucoup à Jean Quatremer de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles, d'être avec nous, comme chaque semaine. Là, on est obligé. Merci Emmanuel Foulon.
Chacun ses bonnes œuvres.
Spin doctor du Parti Socialiste Belge. Merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis en son et en image cette émission. Merci à Pascal Simard qui s'inquiétait pour sa blanquette de veau avec l'histoire des nanotechnologies. Mais a priori, on le rassure. Il y a une marque qui a été pointée du doigt, mais sinon, ça va. Merci beaucoup à Alexandre Rougier, sans qui rien de tout ceci n'existerait. Peut-être que certains, ça les réjouirait. Non, merci Alexandre Rougier d'avoir préparé cette émission. Et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.